C'est la suite de Cap Histoire. Nous sommes en ligne avec la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Nous recevons M. Patience Loukesso pour la chronique congolais de l'étranger. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Ça fait 6 ans que vous vivez en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Vous êtes parti pour des raisons d'études. Aujourd'hui, vous travaillez là-bas à l'université sud-africaine. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Oui, je travaille à l'université sud-africaine. Comme vous l'avez dit, je m'occupe des orientations des carrières dans la faculté de Counseling Office, où j'essaie un peu d'aider des étudiants qui viennent avec des questions pour savoir ce qu'ils veulent étudier et quelle carrière embrasser. C'est donc dans ce sens-là que je travaille.
Est-ce que ça se fait plutôt sous forme de formation ou on va dire de conférences où vous donnez les orientations aux étudiants, par exemple sur une faculté par rapport à une autre ou sur un plan de carrière?
Oui, ça se fait sous forme de conférences que nous appelons surtout workshops. Où on donne des informations par rapport à ce que l'université donne comme formation et aussi des études et voir quel genre de personnalité pour quel genre d'études afin de finaliser une certaine carrière qu'on a toujours rêvé de finaliser. Mais j'ai aussi des sessions qu'on appelle face à face avec des étudiants qui viennent me voir personnellement pour discuter de leur avenir, de leurs études et de leur carrière.
J'imagine que dans ce travail de tous les jours que vous faites, vous rencontrez des étudiants congolais là-bas à l'université sud-africaine. Vers quelle faculté ou quelles sont les orientations que eux choisissent?
De plus en plus, je les rencontre et je suis heureux même de pouvoir les aider. Je mets même beaucoup plus de temps. C'est une manière pour moi de contribuer à aider mes compatriotes. La plupart d'entre eux voudraient s'orienter dans les domaines techniques. Ils ont parfois des difficultés par rapport à ce qu'ils ont étudié là-bas et quand ils rencontrent des exigences d'admission ici, ils sont parfois bloqués. C'est ce qui a même inspiré que je puisse commencer une organisation que j'appelle l'Organisation des étudiants internationaux, francophones surtout, parce que ce sont les plus exposés. Ils ont des difficultés de langue, ils ont des problèmes pour pouvoir intégrer la communauté universitaire. Alors la petite aide que nous leur apportons soulage un peu les démarches pour qu'ils soient acceptés.
Alors dans cette organisation, il y a qui vous parlez des étudiants francophones, des Congolais de Kinshasa, de Brazzaville, des Camerounais, des Gabonais, des Ivoiriens. Ces étudiants viennent de quel pays?
Ils
ou pas spécialement d'Afrique, hein?
Surtout, comme vous l'avez dit, de qui est Congo-Kinshasa, Brazzaville, Gabon. Mais l'université m'avait aussi conseillé de pas seulement à restreindre ça aux étudiants francophones, mais aussi à tout étudiant international qui pouvait avoir le même besoin et qui pouvait exprimer le même besoin et qui aurait besoin d'être assisté dans ce sens-là.
Alors, vous avez parlé parmi les difficultés d'abord le problème de langue. Est-ce que c'est vraiment différent des programmes des pays anglophones? Les programmes de l'enseignement, hein?
Dans ce sens-ci que les pays anglophones sont beaucoup plus pragmatiques, ils s'attachent à l'essentiel, hein? Alors que nous sommes un peu plus génériques, on embrasse beaucoup de choses au même moment, à tel point qu'on n'est pas très spécialiste. Alors, quand ils viennent comme ça, ils ont des problèmes pour pouvoir dire que nous, ils ont étudié ceci, cela, alors qu'ici, pour faire par exemple l'ingénierie, on a besoin que vous puissiez avoir une certaine spécialité en physique. Alors là, quand on n'a pas accordé beaucoup d'importance en physique, on se retrouve hors des critères d'admission. C'est ce qui rend la chose un peu difficile. Et deuxièmement, il y a aussi le niveau de formation dans certains de nos pays, comme le Congo, qui est mis en doute par les universités sud-africaines.
C'est un peu dommage et tout ça. Alors, comment faites-vous pour justement orienter ces étudiants-là? Comment faites-vous pour pallier au problème justement du niveau de l'enseignement?
Mais comprenant la situation de ceux qui viennent de l'extérieur, on essaie un peu de se mettre à leur niveau pour pouvoir aider, aller dans ce bureau, dans celui-là, pour pouvoir expliquer l'autre chose. Par exemple, quand on exige que l'étudiant doit avoir un certain niveau d'anglais, on dit que bon, il vient d'un pays francophone, il faut lui donner un cours de rattrapage. Et dans ce sens-là, parce que nous avons une certaine autorité et on nous fait foi, on peut accorder la chance à l'étudiant. Et on demande à l'étudiant de bien faire parce que la manière dont il travaille peut aussi contribuer à ce que les autres étudiants qui viendront plus tard soient bien vus.
Alors, on ne peut pas terminer cet entretien avec vous, Monsieur Passos Luquesso, sans parler de la question de l'heure. Vous, en tout cas, l'Afrique du Sud, ces dernières semaines, est confrontée à des attaques xénophobiques. Comment est-ce que vous vivez cette situation là-bas à Johannesburg?
La situation est dramatique, ça on doit se le dire, parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine, il y a des déplacements, des personnes qui ont été déplacées, parmi lesquelles il y a des enfants et des femmes qui vivent dans des camps des réfugiés déjà, une chose qui n'a jamais existé en Afrique du Sud. Et ça engage la communauté tant internationale que nationale. Et donc la situation est un peu difficile, mais heureusement que ces derniers jours, ça semble aller vers le calme. Mais le calme est précaire parce que il y a encore par-ci par-là certaines manifestations, surtout dans le KwaZulu-Natal, d'où est venu ce mouvement.
Oui, une région qui se trouve un peu plus au sud. Alors, Monsieur Patience Luquesso, vous me parliez même d'afro-xénophobie. Comment est-ce que vous, vous appréhendez, par exemple, la gestion de cette situation par le gouvernement sud-africain?
On doit reconnaître que le gouvernement sud-africain a d'abord hésité pour pouvoir utiliser le terme xénophobie, mais suite à la pression extérieure, ils étaient obligés de l'adopter et trouver des solutions parce qu'ils ne pouvaient pas trouver des solutions sans pouvoir s'attaquer au problème. Et il fallait nommer le problème comme tel. Et le nom du problème, c'est la xénophobie. Ils accusent les étrangers de pouvoir venir voler leur job, voler toutes les faveurs dont ils bénéficient. Alors, c'est un peu très complexe, mais le fait est là qu'il y a une certaine haine de l'étranger ici.
Alors comment est-ce que, parce que ce n'est pas non plus tous les Sud-Africains qui sont devenus xénophobes, comment est-ce que vous vivez cette situation-là au quotidien avec, j'imagine, vos collègues, vos étudiants? Comment est-ce que vous en parlez?
Je dois reconnaître honnêtement que tous les Sud-Africains ne sont pas impliqués, ne doivent pas être mis dans la même soupe. Parce qu'il y en a qui ont organisé des marches pour pouvoir dénoncer cela, forcément, et ici dans un niveau tout à fait, dans un cadre tout à fait académique, on n'en parle même pas, et ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas attentifs à cela, mais il y a deux amis avec qui on a fait la vie, avec qui on vit, et qui sont prêts à nous aider, qui nous témoignent de leur sympathie, qui dénoncent cela. Donc, dans ce sens-là, tout Sud-Africain ne doit pas être qualifié d'être xénophobe. Il y en a qui regrettent ça et qui voient des conséquences qui peuvent s'étendre à des niveaux inimaginables.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Patience Luquesso, d'avoir accepté de participer à cet entretien, à cette chronique congolaise de l'étranger. Je rappelle que vous vivez à Johannesburg depuis 6 ans. À vous tous qui nous écoutez là-bas à Johannesburg ou partout ailleurs dans le monde, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse diaspora@radiocapi.net. Merci beaucoup à vous.